Le journal, Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, 5 morts dans la maison de retraite La Chêneraie à Lerm, près de Toulouse. Ils ont probablement succombé à une intoxication alimentaire, pas encore de certitude à ce stade. Les dernières informations avec Stéphane Iglesias dans un instant. Les premiers mots de la nouvelle porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, née en Afrique il y a 39 ans, naturalisée française il y a 3 ans.
C'est aussi au Sénégal, le pays de ma naissance, que j'ai puisé le courage de gravir cette marche. La France m'a beaucoup donné. Aujourd'hui, c'est à mon tour de le lui rendre.
En fin de matinée, premier conseil des ministres après le remaniement de ce week-end. Nous allons à l'Élysée tout à l'heure. Priorité à la baisse des impôts, c'est le discours de Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics, invité de France Inter ce matin en cette fin de grand débat. Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
Plus précisément, Delphine, une piste est à l'étude dans la majorité.
Oui, du neuf avec du vieux. La dernière idée des députés de la majorité pour redonner du pouvoir d'achat à la classe moyenne, baisser un peu les impôts, tout dépendra de la fin du grand débat.
Merci Delphine, plus de détails tout à l'heure. Dans ce journal encore, témoignage exceptionnel au micro d'Omar Waman, une femme de djihadiste retenue dans le camp de Roj en Syrie. Elle ne regrette pas tout à fait son engagement, vous l'entendrez. Une claque pour Recep Tayyip Erdogan en Turquie, élection municipale, son parti perd Ankara et il est en mauvaise position à Istanbul. Dans les grandes villes de France, les trottoirs bientôt séparés en deux pour faire de la place aux trottinettes, c'est à l'étude. Et puis la plainte de la Ligue de protection des oiseaux, la France ne respecte pas la directive oiseaux. La météo, bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Quelle est la tendance aujourd'hui ?
Eh bien, début de semaine doux et plutôt ensoleillé avec des températures comprises entre 14 degrés à Cherbourg et 23 degrés à Grenoble. Au nord de la Loire et sur le Grand Est, le soleil sera généreux. Plus au sud, le ciel sera tout de même bien voilé avec des bancs parfois assez denses, notamment sur le quart sud-est. Les nuages seront plus imposants sur les Pyrénées et en Aquitaine avec quelques ondées cet après-midi.
Détail à 13h30, l'invité du journal de 13h autour de cette question. Les salariés des grandes surfaces vont-ils travailler tard le soir dans l'alimentaire sans être payés en heure de nuit? L'invité est l'avocate spécialiste du droit du travail, Céline Kotsa. Et puis nous parlerons BD avec le dernier opus de Manu Larsenet. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
5 morts dans la maison de retraite La Chêneraie à Lerm, près de Toulouse. La préfecture a fourni un nouveau bilan dans la matinée. Bonjour Stéphane Iglesias.
Bonjour Bruno et bonjour à tous.
Un peu plus de 80 résidents dans cette maison de retraite, 22 personnes affectées en tout, Stéphane.
Oui, en fait, pour être tout à fait honnête, il y a 19 personnes qui ont été affectées et 3 personnes qui étaient autour du service. Donc on ne sait pas si ce sont des victimes ou si ce sont des membres du personnel. Selon les familles et une source proche de l'enquête, ce sont les aliments mixés qui seraient en cause, puisque tous ceux qui ont mangé normalement hier soir, poulet basquez et salade périgourdine, d'après les familles, ne sont pas concernés par ce drame. Si les familles des victimes ont été prévenues cette nuit, les autres familles de cette maison de retraite, très inquiètes, sont venues aux nouvelles ce matin. Pour l'hygiène et les soins à l'intérieur de la maison, les avis des familles sont contrastés. Si des familles n'ont pas vu de problème particulier, d'autres estiment qu'à l'extérieur comme à l'intérieur, tout n'est pas bien tenu. Un proche, infirmier de son état, s'étonne de palettes qui traînent à l'extérieur de la maison et de chariots de malades non rangés dans les couloirs, avec parfois des couches sales. Une question reste posée, les repas sont-ils confectionnés sur place ou viennent-ils de l'extérieur? Alain, fils d'une des victimes, est en colère.
Alors l'alimentation, je suis le premier surpris parce que je vais devoir le médecin traitant. On nous a toujours dit, et c'est pour ça qu'on l'a laissé là, que les repas étaient faits sur place, que c'était frais. Et puis maintenant, on apprend qu'il était livré. Le médecin traitant vient de me le confirmer quand même. Par contre, j'ai reçu un courrier, j'espère l'avoir encore à la maison, en disant qu'on veut venir voir les patients, il faut prévenir. On ne peut pas venir incognito. Maintenant, chaque fois que je suis venu, j'ai vu des infirmières qui me disent « Votre mère va bien ». Le médecin traitant vient de me confirmer qu'elle était en excellente santé, qu'il n'y avait absolument rien. Elle avait la maladie d'Alzheimer à 100% et elle mangeait mixé, ça c'est certain.
Alors Stéphane, vous nous avez déjà donné des éléments d'information. Est-ce qu'on a un début d'explication à ce drame?
En fait, les autopsies des personnes décédées ont lieu toute la journée. Les analyses du repas, de la cuisine et des chambres des victimes ont lieu depuis ce matin. Pour l'instant, la seule chose qu'on sache, c'est que ce sont bien les aliments hachés qui étaient destinés notamment aux personnes victimes d'Alzheimer qui sont en cause. Le procureur de la République, le préfet et le maire de Lerm doivent tenir une réunion en début d'après-midi. Ils pourraient donc donner d'autres précisions. Et puis la direction du groupe Korian, qui est propriétaire de la maison depuis quelques semaines, ne s'est toujours pas exprimée depuis depuis ce matin.
Merci Stéphane Iglesis. C'est donc ce bilan, 5 morts, 22 personnes affectées, dont 19 résidents. Celle qui va, dans les mois à venir, défendre et incarner l'action d'Emmanuel Macron et ses ministres, la nouvelle porte-parole du gouvernement, est une jeune femme, née il y a 39 ans, au Sénégal, naturalisée française il y a 3 ans. Ce parcours, Sibeth Ndiaye en a fait un atout lors de la cérémonie de passation de pouvoir ce matin. Celle qui était jusque-là chef du service de presse de l'Élysée succède donc à Benjamin Griveaux comme porte-parole et franchit une nouvelle marche dans sa carrière.
Cette marche, je la franchis avec la fierté de servir la France, ce pays que je me suis choisi. Parce qu'avant même d'être française, j'ai compté parmi les engagés de ce pays. En Seine-Saint-Denis notamment, où rien n'est simple, mais où tout est possible. Ce département, j'y ai vécu, j'y ai travaillé, j'y ai appris. Appris que dès lors que l'action publique ose, elle peut changer le cours des choses et la vie des gens, en vrai. J'y ai appris que lorsque nous savons faire fi de nos différences, nous sommes capables du meilleur. Cette leçon, au fil des années, je l'ai gardée précieusement en mémoire. Soyez-en sûrs, hier, le doute m'a submergée lorsque j'ai vu la marche se dresser devant moi. C'est d'abord vers les miens que je me suis tournée. C'est aussi au Sénégal, le pays de ma naissance, que j'ai puisé le courage de gravir cette marche. La France m'a beaucoup donné. Aujourd'hui, c'est à mon tour de le lui rendre.
Cyril Gradiani, vous êtes en direct de l'Élysée où se tient ce matin le premier conseil des ministres après remaniement. Premier compte rendu pour la nouvelle porte-parole. Bonjour Cyril. Vent de nouveauté avec l'arrivée de Sibeth Ndiaye au gouvernement. Quelques doutes aussi.
On la disait sur la sellette à l'Élysée, elle quitte le palais mais devra y revenir une fois par semaine au moins pour le Conseil des ministres et son compte-rendu. Tout un paradoxe quand on sait qu'Emmanuel Macron avait compris qu'entre elle et la presse, les relations avaient atteint un point de non-retour. Alors le chef de l'État perd à ses côtés une combattante connue pour son franc-parler qui va devoir passer de l'ombre à la lumière, en jargon journalistique du « off ». Au ON, elle va devoir maîtriser tous les dossiers du porte-parole. Benjamin Griveaux, ce matin, à la passation de pouvoir, l'a taquiné et a fait remarquer que son premier compte-rendu se déroulerait un 1er avril. Pas de blague, surtout pas de mensonge, car Sibeth Ndiaye s'était fait connaître à l'Élysée comme assumant sans vergogne de mentir pour protéger Emmanuel Macron. Comme porte-parole, on va voir, la question va lui être posée évidemment dans les prochains instants.
Alors au-delà de la porte-parole, cette nouvelle équipe, Amélie de Montchalin à la place de Nathalie Loiseau aux affaires européennes, secrétaire d'État et non plus ministre, Cédric O, secrétaire d'État au numérique après Mounir Majoubi. Au fond, Cyril, Emmanuel Macron se replie un petit peu plus autour d'un cercle de proches.
Cédric O, en une lettre, c'est le premier des marcheurs, celui qui a déposé les statuts d'En Marche, celui à qui Emmanuel Macron ne peut rien refuser, raconte une élue qui les connaît bien. Enfin, Amélie de Montchalin, longtemps pressentie ministre, c'est une surprise de l'avoir débarqué à ce poste, les affaires européennes, elle dont le domaine de compétence est les finances publiques. C'est une jupéiste qui remplace une jupéiste, demande express d'Edouard Philippe, qui s'est fait imposer Ndiaye et O, deux marcheurs historiques, renforçant un petit peu plus l'idée qu'Emmanuel Macron se replie sur ses plus fidèles.
Cyril Gradiani en direct de l'Élysée. Ce remaniement alors que le gouvernement et la présidence préparent la sortie du grand débat et une petite musique qui se joue dans la majorité. Il faut en sortir de ce grand débat en baissant les impôts. Musique entonnée notamment par Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics, invité de France Inter ce matin. Il confirme qu'il souhaite la suppression de la redevance audiovisuelle.
Que vous ayez 15 000 euros par mois ou 2 000 euros par mois, vous payez la même somme, 139 euros. Donc je pense que s'il y avait un impôt à supprimer, ça pourrait être la redevance télé. Ma question n'est pas du point de vue de l'audiovisuel. Bien sûr qu'il faut garder à l'audiovisuel public des moyens très importants et pérennes. Mais ça n'a rien à voir avec d'où vient l'argent. Ce qui est très important, c'est de baisser les impôts dans notre pays. Chacun sait que la redevance télé est un impôt qui correspond quand tout le monde regardait la télévision publique par la télévision. Je suis pour qu'on supprime des impôts, pas pour qu'on les réinvente. Ça veut dire qu'effectivement, il faut faire des économies pour donner à l'audiovisuel public.
Alors Delphine Simon, comme promis, vous êtes avec nous. Supprimer la redevance, voilà une piste. Une autre qui est examinée par la majorité, c'est une baisse de l'impôt sur le revenu, les premières tranches en tout cas.
Oui, l'idée des députés de la majorité, c'est d'adoucir l'entrée dans l'impôt sur le revenu. Techniquement, les députés En Marche proposent de créer au moins une tranche d'imposition intermédiaire, par exemple entre 15 et 30%. Ça permettrait à certains contribuables de la classe moyenne de payer un peu moins d'impôts et donc de leur apporter un peu plus de pouvoir d'achat. L'idée n'est pas neuve, la majorité en parle depuis plusieurs mois. Cette mesure, elle aurait un coût que l'AREM chiffre à 1 milliard d'euros. Comment compenser le manque à gagner pour les finances publiques? Les députés proposent de jouer sur les niches fiscales, les niches sur les services à la personne ou le logement, les Pinel, les Cellier. Pas question de supprimer ces crédits d'impôt, mais le plafond maximum pour en bénéficier pourrait être, lui, un peu abaissé. Attention, tout cela, ce ne sont que des idées portées par la majorité. Pour l'instant, ni Bercy, ni l'Élysée ne se sont prononcés. Emmanuel Macron l'a dit, il faut attendre la fin du grand débat national et ses restitutions autour du 15 avril.
Comment sortir de la crise des gilets jaunes? La vie d'un ancien président de la République demain sur France Inter. François Hollande, invité de la matinale de Nicolas Demorand et Alexandra Ben Saïd.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Elle ne regrette pas pleinement les horreurs commises par les djihadistes. Voici un témoignage rare recueilli par Omar Waman pour France Inter. Nous sommes dans le nord-est de la Syrie, camp de Roj, où des centaines d'enfants et de femmes capturés après la défaite de l'organisation État islamique sont retenus. Il y a là une quinzaine de Françaises avec leurs enfants. Les forces kurdes qui tiennent le camp empêchent les journalistes d'approcher ces femmes de djihadistes. Le témoignage recueilli est donc celui d'une jeune Belge qui veut rentrer chez elle. Est-ce qu'elle regrette son engagement auprès des djihadistes? Est-ce qu'elle regrette les décapitations commises? Est-ce que tout cela lui a ouvert les yeux? Eh bien, pas tout à fait. Portrait et entretien, Omar Waman.
Sans enfant, un mari qu'elle a rejoint en Syrie, mort lors de la bataille de Raqqa, Cassandra Bodar, vit désormais recluse dans ce camp de Roj, perdu au milieu des champs de pétrole.
Je demande mon rapatriement. Parce que c'est mon droit d'être rapatriée.
Âgée aujourd'hui de 24 ans, cette Belge, originaire de la province de Namur, plaide l'erreur de jeunesse.
Bien sûr, c'est une erreur. Ça a été l'erreur de ma vie, quoi. Ça m'a complètement détruit ma vie et détruit mon image.
Mais Cassandra Bodar a surtout mis du temps avant de prendre la mesure de l'horreur djihadiste dont elle a été témoin. Notamment ces décapitations qui rythmaient la vie à Raqqa.
Au début, ça choque, mais après, vous vous y habituez, en fait. Vous réalisez pas tout de suite ce que vous voyez. Après, quand vous réalisez, vous vous dites, peut-être que demain, ce sera moi à la place de ce gars, donc mieux vaut que je me casse avant que ce soit mon tour, quoi.
Son passeport confisqué par son mari, Cassandra est prise au piège avant de se rendre aux forces kurdes venues libérer l'ex-capitale du groupe État islamique. Elle attend depuis près de 2 ans que son pays, la Belgique, statue sur son sort.
En fait, vous levez avec une phrase dans votre tête, c'est « purée, encore une journée ici, quoi ».
Des jours sans fin, dans la peur d'un transfert en Irak, pour y être jugé. Dans le nord-est de la Syrie, Omar Waman, France Inter.
En Turquie, les résultats des élections municipales sont mauvaises pour Recep Tayyip Erdogan, le tout-puissant président. C'est lui qui avait fait de la campagne des municipales un test national. Les résultats sont encore partiel. Le parti d'Erdogan, l'AKP, conservateur et qui donne une place centrale à l'islam, allié aux ultranationalistes, reste majoritaire en Turquie, mais il perd Ankara, la capitale, et il est en mauvaise posture dans sa ville, Istanbul. Alexandre Billette.
Recep Tayyip Erdogan avait fait campagne sur ses thèmes habituels, une campagne populiste, en accusant l'opposition d'être liée au terrorisme, en accusant l'Occident d'islamophobie, en promettant de transformer la basilique Sainte-Sophie d'Istanbul en mosquée. Mais cette fois-ci, les électeurs ont été moins nombreux à le suivre en cause la crise économique qui frappe le pays et qui préoccupe les Turcs bien davantage que les envolées de leur président. Le pouvoir turc peut se consoler car il n'y a pas de scrutin prévu avant 2023, mais la perte d'Ankara et celle éventuelle d'Istanbul est une très mauvaise nouvelle pour le président turc. Une mauvaise nouvelle très symbolique puisque c'est à la mairie d'Istanbul qu'il a lancé sa carrière politique. Une mauvaise nouvelle aussi pour son parti. L'AKP a bâti son influence et sa force par un réseau d'affaires clientélistes dont la mairie d'Istanbul est le cœur et qui sera menacée si l'opposition arrive à l'hôtel de ville. Istanbul, Alexandre Billette, RFI pour France Inter.
Et cette défaite partielle face à la droite et aux sociodémocrates est d'autant plus notable que depuis l'accession au pouvoir de l'AKP en 2002, le parti a systématiquement gagné toutes les élections. Didier Billion est le directeur adjoint de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Il est spécialiste de la Turquie.
Ce test dette nationale à la hauteur de l'investissement de M. Erdogan a évidemment été une gifle. Pour autant, une bête blessée, et vous me pardonnerez l'expression, peut être très dangereuse et je crains fort que cette polarisation de la société qu'il entretient depuis plusieurs années ne se renforce encore dans les mois à venir. C'est-à-dire qu'au lieu de trouver des solutions de compromis, de dialogue avec l'opposition, il risque de se raidir encore plus, si c'est possible, à l'égard de cette dite opposition, à l'égard de la société civile. Donc je ne crois pas du tout que la situation politique générale va se détendre dans les mois à venir, même si, encore une fois, nous sommes désormais dans une séquence nouvelle qui est d'une importance absolument considérable.
Propos recueillis par Christian Chesneau. En Algérie, ce que les manifestants appellent le système lâche prise petit à petit, mais pas encore tout à fait assez loin de là même, au fil des 6 vendredis de manifestation. Abdelaziz Bouteflika a d'abord promis qu'il ne postulerait pas un nouveau mandat. Puis son entourage a pris ses distances, voire l'a lâché. Hier, nomination d'un nouveau gouvernement, mais le chef d'état-major de l'armée, le général Salah, une des incarnations du système, reste numéro 2. Deux chaînes de télévision annoncent maintenant la démission imminente de Bouteflika. Envoyé spécial de France Inter, Gilles Gallinaro, Mathilde Dehimi.
La démission d'Abdelaziz Bouteflika devrait arriver rapidement car désormais tout est en place pour cette option. Hier soir, le Premier ministre Nourdine Bédoui a enfin annoncé, après 15 jours de carence, la composition de son gouvernement, dont 8 membres du précédent. Un gouvernement des amis, ce n'est pas nous qui le disons, mais la nouvelle ministre du Tourisme qui utilise ce terme, justifiant son poste par le fait qu'elle soit une amie du fils du Premier ministre. D'autres dossiers commencent à sortir depuis ce matin, des photos de soirées sur les réseaux sociaux notamment. Autant vous dire que dès hier soir, les Algérois sont sortis manifester leur rejet total de ce gouvernement.
Il n'y a pas de démission, il n'existe pas. On a été provoqué par l'installation de cet gouvernement débile. On a été provoqué. Je vais te dire, il n'y a pas de Bouteflika. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de Bouteflika. Il y a Saïd Bouteflika.
Il y a la mafia.
Il y a la mafia.
Tout le monde dégage en français.
Ce gouvernement, avec peu de figures connues des gens du système, est de toute façon là pour enclencher la suite de la procédure. Au-delà de la fin du mandat présidentiel, le 28 avril, il y a un vide juridique qu'une procédure de démission viendrait combler. Si le président démissionne pour raison de santé, comme le suggère très très fortement l'armée, c'est l'équivalent du président du Sénat qui le remplace, le temps d'organiser des élections dans les 3 mois. Alger, Gilles Gallinaro, Mathilde Dehimi, France Inter.
Et l'actualité internationale est également à suivre sur notre site internet franceinter.fr. Les enseignes de distribution alimentaire vont-elles pouvoir bientôt employer du personnel dans les magasins au-delà de 21h sans avoir à payer des heures de nuit? C'est examiné au Sénat dans le cadre de la loi Pacte et nous en parlons avec l'invité de ce journal. Bonjour Céline Kozza.
Bonjour.
Avocate spécialiste du droit du travail, vous travaillez notamment aux côtés de la CFDT sur le dossier Monoprix. Tout simplement d'abord, quelles sont les règles aujourd'hui? Quelle est la période d'heures de nuit précisément?
Alors, la législation n'est pas vraiment très simple sur ce sujet.
Zut alors.
Je ne vais pas vous simplifier la tâche, parce qu'elle prévoit deux choses. Elle prévoit qu'effectivement, le travail de nuit, c'est 9 heures consécutives et que ces 9 heures doivent comprendre forcément les heures entre minuit et 5 heures. Bon. Et après, c'est aux partenaires sociaux, effectivement, de définir la plage de 9 heures entre 21 heures et 7 heures.
Bon, jusque-là, c'est clair. Pour faire travailler un salarié en heure de nuit, il faut son accord et l'accord d'un syndicat majoritaire?
Il faut effectivement pas d'un syndicat majoritaire. Il faut que l'accord soit signé par des organisations syndicales qui représentent 50% aux dernières élections professionnelles.
Êtes-vous d'accord, puisqu'on parle de l'alimentaire, que parallèlement à cela, il y a un changement des habitudes et des comportements des clients qui, notamment dans les grandes villes, font leurs courses de plus en plus tard, de manière de plus en plus fractionnée, et que donc l'idée de faire travailler les salariés de l'alimentaire plus tard correspond à un changement de mode de vie?
Je partage pas forcément cette conviction, puisque les salariés, effectivement, les clients sont amenés à faire leurs courses plus tard, puisque les magasins ouvrent peut-être plus tard. Donc, est-ce que c'est pas le droit qui devance la logique économique, ou est-ce que c'est le droit qui finalement s'incline devant une logique économique? C'est pas forcément évident de pencher dans un sens ou dans un autre. Le droit le permet, effectivement, les gens iront faire leurs courses plus tard, mais est-ce que c'est pas le droit qui a devancé ce besoin?
Là, l'idée qui est en tout cas examinée dans le cadre de la loi Pacte, c'est de au fond de marcher par dérogation, un petit peu comme dans certains secteurs, comme les discothèques ou la presse, où par dérogation les heures de nuit sont réduites. L'argument étant que, eh bien, si on ne fait pas ça, c'est des supermarchés tout automatiques qui risquent d'ouvrir.
Ah, mais je suis toujours effectivement sur la question du chantage économique.
Oui.
C'est-à-dire, mais il faut faire évoluer la législation sur le terrain du chantage. C'est pas forcément ce qui est le plus favorable, in fine, pour les salariés, parce que le droit, notamment en matière de travail de nuit, vient concilier deux équilibres. À la fois le principe de liberté d'entreprendre qui implique cette flexibilité, mais également la protection de la santé et de la sécurité des salariés. Donc l'équilibre, il est fragile. Et si je déplace un peu le curseur, je risque de rompre cet équilibre un peu fragile.
Donc de votre point de vue, il n'y a pas de raison d'accorder de dérogation aux grandes surfaces alimentaires pour faciliter le travail de nuit.
Alors, c'est pas aussi évident que ça. Ouais. C'est-à-dire que ça dépend de la dérogation. Tout dépend de l'encadrement qu'on va y mettre. C'est-à-dire que vous l'avez vu, la définition du travail de nuit, qui est une définition qui est assez restrictive, puisqu'il me faut 9 heures consécutives, et c'est une période entre minuit et 5 heures. Après, je peux définir d'autres périodes. Alors, il y a le travail de soirée et le travail de nuit. Je peux très bien, effectivement, envisager que j'ai à la fois une période de travail de nuit avec un encadrement très strict et un travail en soirée qui fasse l'objet d'un encadrement plus léger. Mais ce qu'il est indispensable de conserver, c'est un contrôle par les partenaires sociaux et également un contrôle par le juge, à la fois de la logique qui a initié l'accord, mais également du contenu de l'accord. Donc si j'ai un encadrement, on peut imaginer effectivement plusieurs périodes, travail de soirée, travail de nuit, avec un contrôle par les partenaires sociaux et un contrôle par le juge.
Merci Céline Kozza d'avoir répondu à nos questions. On continuera évidemment de suivre ce débat qui se déroule pour l'instant au Sénat dans le cadre de l'examen de loi Pacte, avec ce chiffre en tête, hein, 1 million de travailleurs de nuit supplémentaires entre les années 90 et les années 2010. Demain, cela fera 40 ans qu'existe la directive Oiseaux pour protéger un certain nombre d'espèces. Eh bien, c'est ce jour symbolique qu'a choisi la Ligue de protection des oiseaux pour porter plainte contre la France devant l'Union européenne. La LPO estime que la France ne respecte pas la directive. Les règles appliquées en France sont conformes au droit européen, estime-t-on, au gouvernement. 3 hommes sont jugés à partir de ce matin et depuis ce matin devant le tribunal de grande instance de Bobigny pour trafic de drogue après la découverte de 500 kilos de cannabis au sein même du garage de la ville de Saint-Denis. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Vous avez suivi le début de l'audience. Parmi les 3 prévenus, Emmanuel, il y a l'ancien responsable adjoint du service des fêtes de la mairie.
Oui, les 3 prévenus qui comparaissent pouvaient apparemment entrer dans le garage municipal de Saint-Denis, comme dans un moulin, même à 21h, avec une puissante Audi A6, un camion frigorifique et une remorque surveillée depuis un moment par les douaniers. Les caméras de vidéosurveillance étaient débranchées. Le convoi, lui, revenait d'Espagne. L'opération permet, vous l'avez dit, de découvrir 504 kilos de résine de cannabis, précisément, bien cachée dans un double fond de la remorque. Quand les douaniers débarquent, un homme s'enfuit vers les logements de fonction voisins. Un suspect qui refera surface une heure plus tard. Et il s'agit du chef adjoint du service municipal des fêtes, effectivement. Dans sa camionnette, un Renault Trafic, on découvre près de 95 000 euros dans les mêmes sachets thermosoudés que pour les pains de cannabis. Cyril Ferrari travaillait depuis 20 ans pour la mairie. Connu pour son goût des belles voitures, il est surtout soupçonné par les policiers de Saint-Denis d'être l'un des plus gros fournisseurs de drogue de la ville. Eux qui l'avaient coincé un an plus tôt avec 1 kilo de cocaïne. L'affaire avait fait pchit pour un problème de procédure. Cette fois, Cyril Ferrari conteste formellement être le propriétaire de la marchandise. Il n'était pas, selon lui, un parrain du garage municipal de Saint-Denis, transformé en plateforme logistique de distribution de cannabis.
Emmanuel Leclerc en direct du tribunal de Bobigny pour France Inter. C'est mon actu, chaque lundi dans ce journal de 13h, votre actualité à vous. Nous parlions tout à l'heure de la campagne des municipales. Eh bien, dans les mairies des grandes villes, parmi les dossiers de plus en plus chauds, celui des trottinettes. Mais oui, elles se multiplient sur les trottoirs, la cohabitation avec les piétons est de plus en plus compliquée, les accidents se multiplient. Alors, les grandes villes envisagent sérieusement de créer sur les trottoirs des couloirs réservés aux trottinettes. Sandrine Houdin a soumis ce projet de réforme à quelques piétons.
Mais c'est pas possible.
Je suis pas au courant, moi. T'étais au courant de ça?
C'est une blague.
Là, par exemple, ça sera divisé en deux, là.
Hein?
Pour éviter les accidents.
Ah, mais les trottoirs sont déjà petits.
C'est n'importe quoi, hein.
on va être tous serrés contre les murs, contre les voitures. Non, déjà, pour les piétons, quand on est en sens inverse, on a déjà du mal à passer à deux. Donc là,
tu marches pas assez vite et tu marches trop vite.
C'est ça le problème. Non mais trottoir, c'est pour les piétons, c'est pas pour les trottinettes.
Du verbe trotter.
Qui trottine? Les piétons. Les basta.
Piétons trottinent.
Non mais les grandes artères, ça va, mais les petites, c'est impossible. On va être obligé de se mettre à la queue leu-leu, vous trouvez ça normal, non?
Ça va être comme dans un escalator, tout le monde à droite, ceux qui montent, et ceux qui avancent, ils sont à gauche. Ça va être la même chose. Tous suivent à la queue leu-leu.
Ah, sûrement pas, non? Puis on risque de se faire renverser par une trottinette, par toutes sortes.
Non, elles auront leur piste.
Ouais, mais la piste sera séparée comment?
Un petit muret, je crois.
Un muret? Non.
Un mur.
Au milieu du trottoir.
C'est pas possible, ça. Impossible. Non.
Tout petit muret.
Bah non, si j'ai envie d'aller de l'autre côté du muret.
Alors là, je pense qu'ils pensent à une amende.
Ah, si je vais de l'autre côté du muret, j'ai droit à une amende. Non, mais où va le monde?
Si on vous voit passer sur la piste des trottinettes.
Je fais ce que je veux quand même. C'est pas parce qu'il y a un mur qui m'interdit que j'irai pas.
On est parqués comme des bœufs.
Alors là, ça va être divisé en deux. Donc il y a des magasins à droite et à gauche. Je vais aller au magasin de droite. C'est la piste trottinette. Je fais comment? Je vais pas faire 500 mètres et faire demi-tour. Je vais pas faire des petites marches en plus.
Et l'amende? Comment ils vont pouvoir surveiller?
Bah, ils vont mettre des caméras. Il y en a déjà plein. Et que dès que si on franchit le mur, et ben on va recevoir une petite amende chez nous. Ça peut être possible.
Il faut bien partager la ville.
Oui, mais bon.
Et pour le climat, c'est une bonne chose, les trottinettes.
Bah, il y a encore mieux, c'est de marcher à pied. C'est très bon pour les maladies cardiovasculaires.
Voilà pour ces propos recueillis par Sandrine Houdin en football. La 30e journée de Ligue 1 Saint-Étienne-Nîmes ce soir à 20h30. Et puis quelques bulles de bande dessinée pour terminer ce journal. Revoilà l'histoire du gars qui s'est installé avec femme et enfant à la campagne. Le retour à la terre de Manu Larcenet et Jean-Yves Ferry, tome 6. L'histoire se passe dans le village des Ravenel. Particularité de cette série, une mise en abîme. L'histoire, c'est aussi celle d'un dessinateur de BD. Et Jacqueline Pétros, dans ce 6e épisode, il n'a pas la vie facile.
Oh là là, la vie se complique au Ravenel. Manu fait un blocage sur la grossesse de Mariette, obnubilé qu'il est par sa BD, Plast, qui laisse son éditeur dubitatif. Madame Mortemont s'initie à la commande vocale de son portable et Pupus, très zen heureusement, grandit à vue d'œil. Nouveau venu, Philippe, l'éditeur adjoint, qui découvre la nature, l'hiver et les zadistes. Une chronique toujours drôle, tendre, mais un peu plus sombre, Jean-Yves Ferry.
C'est-à-dire que ces choses sont tendues un petit peu, les zadistes, les migrants. Et finalement, les Ravenel, c'est peut-être pas le paradis dont avaient rêvé les Larcinés, quoi. C'est toujours un petit peu la philosophie du retour à la Terre. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça existe? Ou alors est-ce qu'au contraire, il faut se frotter au monde pour le trouver? Voilà, c'est toujours la question.
Jean-Yves Ferry qui pense ses cases comme des haïkus, des instantanés de vie.
J'ai pas besoin d'avoir un matériau renversant. Je crois que le lecteur l'a compris, quoi. Il attend pas des choses extraordinaires, mais il faut rester, je crois, dans la vérité de chaque personnage comme ça, et entrecroiser les choses. D'ailleurs, souvent, on nous a dit « je connais une Madame Mortemont » ou « j'ai le même épicier » ou « je suis amoureux de ma boulangère » aussi. Ce qui arrive plus souvent qu'on ne croit.
On s'inquiète de l'humeur morose de Manu, on s'amuse des uns et des autres, même moins optimiste. Ce tome 6 est jubilatoire. On espère juste avoir des nouvelles cette fois, avant la prochaine décennie.
Le retour à la Terre, tome 6, les métamorphoses, c'est chez Dargo.
La météo avec Gauthier, la marque française de mobilier contemporain. Et pour trouver le mobilier de vos rêves, rendez-vous en magasin et sur gauthier.fr.
Sébastien Léas.
Avant un rafraîchissement attendu à partir de demain, la semaine commence par un après-midi très doux. Les températures maximales sont généralement comprises entre 16 et 22 degrés, avec quelques degrés de moins près de la Manche, mais jusqu'à 23 degrés sur le centre-est. De la Bretagne au bord de Loire jusqu'en Alsace et au Hauts-de-France, le soleil brille sans partage. Plus au sud, des bandes de nuages élevées circulent dans le ciel cet après-midi. L'impression est souvent très lumineuse, notamment entre le midi toulousain et le Berry, mais ce voile est parfois bien dense et rend le ciel blanchâtre, comme en Corse et à l'est du Rhône. L'après-midi est encore plus nuageux en Aquitaine et sur les Pyrénées. Quelques ondées peuvent s'échapper, mais restent de faible intensité.